que le président Biya a réussi au cours des 4-5 dernières années à renouveler son discours, notamment en fixant au Cameroun un objectif, celui de la marche vers l'émergence, ce qui, par rapport au modèle économique qui était dominant antérieurement, constitue une nouvelle orientation. Donc, ce changement de vision politique aujourd'hui peut être obtenu soit par le président sortant, soit par les nouveaux candidats. Et cela va dans le sens d'une attente générale des électeurs.
Alors on va parler des forces en présence en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, parlons un peu de l'organisation du scrutin. Hein. Un conflit oppose dans le nord-ouest et le sud-ouest les séparatistes anglophones au gouvernement de Yaoundé. Célestin, comment s'annonce le vote dans ces régions ?
Oh, il est évident que c'est un sujet réel de préoccupation, mais c'est également une situation qui peut provoquer ou avoir des répercussions politiques, des répercussions électorales certaines. Parce que ces régions, notamment la région du Nord-Ouest, étaient ou sont un fief politique, voire électoral, du principal parti d'opposition, le SDF. Alors qu'aujourd'hui, le vote ne puisse pas s'y opérer de manière normale, comme aurait souhaité, ou bien comme en aurait tiré avantage ce principal parti de l'opposition, peut, de manière politiquement cynique, profiter au parti au pouvoir. Il est évident qu'il y a là une donnée essentielle. Maintenant, d'une manière générale, le pays a quand même à faire face à un réel défi sécuritaire, ce qui, quoi qu'on dit, hein, favorise davantage le parti au pouvoir, parce que celui-ci a comme fief des zones qui ne présentent pas de tensions sociopolitiques significatives et où il pourrait donc, le parti au pouvoir j'entends, engranger le maximum de voix, alors que les zones qui sont maintenant fragilisées, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, elles auraient été des réservoirs de voix pour l'opposition et qui ne pourront pas trouver avantage de ces gisements de voix-là.
Alors, on a avec nous donc Abdelaziz Moundé. Hein. Les séparatistes ont menacé de perturber le scrutin. L'armée camerounaise a-t-elle les capacités d'assurer la sécurité des électeurs ? Abdelaziz, vous êtes avec nous ?
Je suis là, je viens de vous rejoindre. Merci pour votre invitation. J'ai eu quelques mal à vous rejoindre. Alors, vous parlez d'une question évidemment cruciale pour le Cameroun aujourd'hui en pleine élection. C'est la situation du nord-ouest, sud-ouest. L'armée camerounaise est une armée évidemment professionnelle puisque la réforme des armées en 2001 a permis que cette armée puisse s'arrimer, se moderniser. Elle a fait ses preuves dans le conflit contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, la partie septentrionale qu'elle a réussi à endiguer considérablement. Donc, c'est tout à son honneur. Même si l'armée a aussi quelques exactions qu'on peut lui reprocher significativement pour continuer à se moderniser. Et donc dans le cadre du conflit dans le nord-ouest, sud-ouest, l'armée, on peut lui reprocher d'avoir brûlé, je dis bien en assumant mon propos, en avoir brûlé un certain nombre de cases, de villages, de rasés, et c'était aussi un certain nombre ce sont des raisins de la colère dans cette partie du pays, puisque beaucoup de forces qui sont en branle là-bas ont reproché cette situation à l'armée. Mais il est évident que le Cameroun ne pouvait pas vivre une telle situation sans avoir des forces opérationnelles de catégorie 1, pas simplement de troisième catégorie, comme c'est le cas dans le nord et sud-ouest, de catégorie 1 pour assurer la sécurité des populations et des biens. Il fallait absolument, parce que nous sommes, à titre personnel, on ne peut pas accepter que notre pays, dont les pères fondateurs, que ce soit les Oumnobé, les Moumié, les Wandié et ceux qui ont eu le pouvoir à l'indépendance, qu'ils ont contribué à le bâtir, ils ont pensé à le réunifier et à faire un Cameroun uni, on ne peut pas penser que des sécessionnistes viennent partitionner le pays.
Mais concrètement, quand je pose la question des séparatistes qui menacent de perturber le scrutin, ma question derrière, c'est est-ce que le vote va avoir lieu
oui, mais
dans des conditions normales
ma très chère, vous savez très très bien que le vote ne va pas avoir lieu dans des conditions normales. Il y a des villes fantômes dans le nord-ouest, sud-ouest, le Nozo, comme les Camerounais l'appellent aujourd'hui. Il y a des villes comme, des endroits comme Batibo, des endroits comme Bangem, des endroits comme où il n'y a plus personne, il n'y a plus un chat. Il y a 200 000 Camerounais qui sont déplacés. 200 000 Camerounais dont certains venaient de traverser Jakiri, les montagnes de Jakiri pour rejoindre Bangourin dans le Noun, limitrophes. Certaines de ces populations sont au Nigeria aujourd'hui. Il est évident que amputé de 200 000 Camerounais, vous savez, dans ces régions-là, il y a environ, pour les deux régions, 1 million de votants, 600 000 à peu près dans le nord-ouest du Cameroun, Chef Lieu Bamenda, et puis 300 à 400 000 à peu près dans le sud-ouest Boya. Et vous voyez que le président Biya aurait pu faire un voyage mardi qui était annoncé à Boya, mais il n'a pas pu le faire pour des raisons sécuritaires. Oui. À l'évidence, le vote ne sera pas un vote normal, oui, comme en 92, comme en 97, comme en 2004, comme en 2011, oui, dans cette partie du Cameroun.
Oui, sans compter que des bureaux de vote ont déjà été supprimés dans cette zone. Alors Bagassi, courant, la situation sécuritaire est également inquiétante dans l'extrême nord où sévit Boko Haram. Ici aussi, comment va se dérouler le vote ?
Oui, avant d'en arriver à l'extrême nord, ce qu'il vient de dire, c'est exact. On parle de plus de 900 000 électeurs. Hein. C'est la deuxième région électorale, le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Donc 900 000 électeurs, 4027 bureaux de vote dans cette région. Et maintenant, parlant de l'extrême nord, vous savez, il y a quelques jours, je crois que c'est la semaine dernière, le président Paul Biya était à Maroua, la grande ville donc de l'extrême nord. Il a dit que l'armée camerounaise avait repris le contrôle de cette région et que les militants de Boko Haram avaient été mis en déroute. Et cette information a aussi été confirmée par plusieurs observateurs. Donc, l'armée a le dessus, mais il s'agit des questions terroristes et je pense qu'ils sont sur le qui-vive pour s'assurer que ce scrutin se déroule bien dans cette région. Peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que l'élection pourra se dérouler mieux là-bas que dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne sait pas, mais c'est ce que je pense.
Oui, Abdelaziz, les djihadistes ont-ils clairement menacé le scrutin, comme l'a fait les anglophones, les séparatistes anglophones?
Il y a des menaces jusqu'ici enregistrées. Il n'y a pas eu de sortie de Aboubakar Shekau et de ses hommes dans l'extrême nord du Cameroun. Quelques exactions subsistent sur la page d'un confrère comme Guiba Egatema qui dirige le journal L'œil du Sahel. On peut lire quotidiennement des exactions, des populations, des vols de bétail par-ci, des morts par-là, mais ça reste sporadique par rapport à 2014-2016, donc la période de 2 ans où le feu de Boko Haram a été complètement horrible, raser les villes. Donc jusqu'ici, il n'y a pas eu de menace sérieuse qui pourrait entacher le scrutin dans le septentrion, dans la partie extrême nord du Cameroun.
Et dans ce contexte, hein, beaucoup d'électeurs risquent de ne pas voter, hein, dans les zones en crise. Célestin Bedghizi, quel impact sur les résultats des élections ?
Bon, il est évident que la situation sécuritaire et la situation dans ces régions fera que certaines personnes ou certaines voix en contesteront les résultats, notamment du point de vue de la légitimité. Mais voyez-vous, la situation est rendue complexe par le fait que, qu'il s'agisse de l'extrême nord, de ce qui se passe dans l'extrême nord où il y a des assassinats, ou bien de ce qui se passe dans le nord-ouest, le sud-ouest, il n'y a pas de figure politique, il n'y a pas de courant politique clairement identifié qui puisse être, on dirait, au rebond et à partir ou sur laquelle ou de laquelle on pourra essayer de prêter oreille pour savoir quelles sont les conséquences politiques qu'aurait la manière dont se dérouleraient les élections ou ne se dérouleront pas des élections dans la zone. Et disons que tout simplement, on a l'impression que nous vivons dans une situation, les gens entretiennent une situation de désordre, désordre ordinaire. organisé, qui, de toute façon, n'a pas un impact réel hein, sur l'état, le fonctionnement de l'État camerounais. Parce que quoi qu'on dit, l'État camerounais garde le contrôle sur l'ensemble du territoire et les exactions qu'ils ont commises. Plutôt des victimes civiles et ne remettent pas en cause les fondements même de la République ou bien de la scène politique globale du pays.
Allez, on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. Avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur le Cameroun. Pour en parler à Yaoundé, Célestin Bedzigui, économiste et analyste politique. De Paris, Abdelaziz Moundé, journaliste consultant en relations internationales. Et à Yaoundé, notre envoyé spécial, Bagessi Koura. Au départ, ils étaient 28 à vouloir briguer le fauteuil présidentiel, mais à l'arrivée, la commission électorale et les CAM n'en a retenu que 9, dont le sortant Paul Biya. Le président âgé de 85 ans, qui a passé 36 ans au pouvoir par favori dans ce scrutin à un tour. Cependant, ses challengers ne l'entendent pas de cette oreille. Les forces en présence avec Abdourahmane Dia.
Malgré son âge avancé, le président Paul Biya a comme principal atout une stabilité institutionnelle et une économie qui a résisté au choc depuis 2010, connaissant depuis lors une croissance stable. Il bat campagne sur ses réalisations et veut un autre mandat pour, dit-il, achever ses grands chantiers. Ses faiblesses, la crise anglophone qui a éclaté au grand jour en 2016 et qui paralyse deux régions qui contribuent fortement à l'économie nationale. Joshua aussi a la chance de porter les couleurs du principal parti d'opposition, donc capable de mobiliser. Cet entrepreneur qui a fait fortune dans l'aviation peut revendiquer une certaine expérience dans les affaires. Sa faiblesse, l'électorat du SDF se trouve en grande partie en zone anglophone où les séparatistes promettent de perturber le déroulement du scrutin. Mais le remplaçant de l'opposant historique John Frundi compte sur la notoriété et les années de lutte de son parti pour convaincre les électeurs. Cabral Libi, le plus jeune candidat à la présidentielle, entend capitaliser sur la campagne qu'il avait lancée dénommée 11 millions d'inscrits, appelant ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales. Sa jeunesse est un atout pour ceux qui veulent un changement générationnel. Il se présente comme le candidat des oubliés. En face, il y a aussi des hommes expérimentés comme Maurice Kamto, ancien ministre délégué à la justice et professeur de droit bien connu pour avoir géré avec succès le conflit frontalier entre le Nigeria et le Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. Il y a également Akere Muna, un avocat anglophone jusque-là peu actif en politique. Très connu à l'étranger, il doit convaincre l'électorat francophone de lui faire confiance. Enfin, il y a des candidatures comme celle de Garga Haman Hadji, natif de la grande ville de Maroua, dans l'extrême nord. En 2011, il n'avait obtenu que 3,21%.
Abdelaziz Moundé, pour bon nombre d'observateurs, la victoire de Paul Biya est quasi certaine. Comment l'expliquer ?
Oui, la victoire de Paul Biya pourrait être quasi certaine si on n'était pas justement dans un système où l'administration territoriale, vous avez vu le ministre Atanganji qui décide unilatéralement d'attribuer des fonds à l'opposition pour la campagne, ça ne se voit nulle part. Je rappelle que dans un pays comme le Mali, les fonds pour la campagne électorale sont d'environ 2 milliards répartis et qui font partie d'une loi votée par l'Assemblée nationale. Au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale distribue de l'argent aux autorités administratives, plus de 700 millions de francs CFA, alors alors que les partis ont chaque candidat a 15 millions de francs CFA pour faire campagne. Je dis bien 15 millions de francs CFA alors qu'ils déposent une caution de 30 millions. Les chefs traditionnels, et puis sans compter tout l'appareil administratif, politico-administratif de l'État qui est mis au service du parti. Vous avez en plus de ça un appareil, évidemment on ne va pas reprocher au RDPC créé en 85 par M. Biyas sur les cendres de l'UNC d'Aïdjo, on ne va pas lui reprocher d'avoir un appareil avec 660 000 responsables, donc à peu près 10% du corps électoral. Donc quand vous partez aux élections avec 10% du corps électoral parmi ceux qui ont physiquement des cartes d'électeurs, eh bien évidemment vous êtes favoris, sans compter la Fière TV l'autre jour, ma chère, la télévision publique qui est financée par la redevance des Camerounais diffuse un meeting du président Biya en tant que candidat et ne diffuse pas les meetings en direct des autres candidats qui sont réduits à la portion congrue d'une couverture par un journal des élections. Donc je fixe un tout petit peu le cadre pour dire que oui, c'est très très subtil dans mon pays, le Cameroun, pour permettre effectivement à M. Biya d'avoir son septième mandat. Évidemment et heureusement, il y a ces forces politiques qui ont engagé une dynamique depuis quelques semaines. On voit très très bien avec le tableau qu'a dessiné votre correspondant tout à l'heure, on voit très bien que les partis politiques n'ont pas, après ces indignations-là, n'ont pas baissé les bras. Ils ont capitalisé justement sur la colère légitime des Camerounais pour pouvoir mobiliser pour le 7 octobre, même si je suis de ceux qui pensent que sans un véritable travail de mutualisation des forces, de dynamique politique collective, on appelle ça coalition, on appelle ça candidature consensuelle, eh bien évidemment, des personnes comme Maurice Kamto, effectivement, qui a une dynamique
politique. Alors, Abdelaziz, avant peut-être de parler des opposants, hein, rapidement, regardons ce qu'en disent nos Facebookers, puisque eux aussi, ils ont l'air de dire que c'est la victoire annoncée de Paul Biya. Donc, on a Harouna Traoré qui est à Bamako, au Mali. Il dit « Les chances de l'opposition sont très très minces, car en Afrique, la politique de diviser pour mieux régner est répandue. » On a Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC. « Paul Biya, 85 ans, est trop vieux et devrait laisser la place aux jeunes. » Et enfin, Jean-Luc Moukoutou, qui est à Lubumbashi en RDC, il dit « Je ne donne aucune chance à l'opposition qui part séparée face à Paul Biya, qui a non seulement l'expérience politique de son pays, mais aussi tous les moyens matériels et financiers d'arriver à ses fins. » Alors, après plusieurs décennies au pouvoir, hein, le RDPC dispose-t-il d'un avantage sur le terrain, Célestin ? C'est un peu ce qu'Abdelaziz disait.
Absolument, absolument. Il y a ce qui est appelé couramment ici la machine du RDPC. Ce n'est pas, ce n'est vraiment pas un mot vain, c'est une réalité. La preuve, on l'a vu à l'œuvre, cette machine, c'est que le candidat Biya, par exemple, n'a pas eu besoin d'effectuer jusqu'à ce jour, depuis l'ouverture de la campagne, d'effectuer plus d'une sortie sur le terrain avec ses équipes, les équipes de son parti qui, en revanche, sont à l'œuvre sur toute l'étendue du territoire. Et d'ailleurs, ça crée par réverbération un certain nombre de, ça suscite un certain nombre de critiques parce que chacune de ces équipes étant suivie par un reporter de la radio-télévision nationale, lorsque en fin de journée on doit faire le bilan de ce qui a été fait sur le plan politique, on se retrouve avec une vingtaine de reportages qui portent sur des meetings du candidat Biya et généralement un seul reportage fait par chaque candidat.
Oui, voilà
un peu
oui,
le déséquilibre oui, que cela peut créer, hein, sur oui, le plan médiatique.
Alors il s'agit aussi, excusez-moi de vous, je vous coupe, hein, il s'agit d'un scrutin à un tour. Est-ce un avantage ou un inconvénient pour l'opposition, Bagassi?
Ah, c'est clairement un inconvénient, hein. C'est un peu le système qui ne favorise pas l'opposition ici, l'opposition que vous l'avez dit, hein, qui va en rendre dispersée. Et donc, dès dimanche, ce sera fini, il n'y aura pas un autre tour pour les opposants. Et comme ils sont jusqu'à 8 candidats face à un seul, qui a tous ses moyens, qui a un peu toute cette expérience à la tête du Cameroun, donc ça va être vraiment difficile. Et je voyais tout à l'heure, hein, là, dans un des journaux de la place, qu'il y avait des négociations entre deux candidats. Il s'agit notamment des Akere Muna et de Maurice Kamto. On ne sait pas à quoi ça va aboutir. Même s'ils venaient à s'entendre, on se demande à 3 jours de l'élection, est-ce que ça peut servir vraiment à quelque chose, le report des voix? Est-ce que les électeurs qui sont au fin fond du Cameroun seront même au courant qu'il y a un des candidats qui s'est retiré au profit d'un autre? Donc peut-être c'est un peu trop tard pour mener ce genre de négociations. Donc clairement, c'est l'opposition part en position de désavantage total du fait qu'il y a plusieurs candidats. C'est vrai que souvent on les critique pour cela, mais c'est difficile de voir comment est-ce que des candidats qui ont souvent des philosophies politiques divergentes peuvent de prime abord s'entendre juste parce qu'il y a un candidat qui est plus fort en face.
Alors j'ai une question d'une station partenaire, la radio-télévision Mwangaza à Lubumbashi, qui demande quelles seraient les implications de la réaction de Paul Biya. Et Célestin, je reviens vers vous puisque je vous ai coupé tout à l'heure.
Oui, mais voyez-vous, je pense que le système ici chez nous, ça fonctionne comme un système presque automatique. Hein. La remise en cause des dynamiques qui jusque-là sont établies dans le pays et surtout le fait que les populations ne sont exposées sont très très fortement exposés, notamment en zone rurale, aux représentants du président Biya, c'est que même si sur les réseaux sociaux ou dans les villes, on parle des autres candidats, le pays profond, hein, où généralement d'ailleurs l'essentiel du vote est fait par des prescripteurs, le pays profond reste presque immuable, d'autant plus que je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la machine du RDPC. Ils ont une puissance, une présence sur le terrain beaucoup plus effective que celle des autres candidats qui généralement sont portés par des partis qui ne peuvent qu'à travers leur puissance à eux, leur présence physique à eux sur le théâtre électoral, alors que le RDPC c'est comme une bombe à tête multiple, hein, qui sème l'ensemble du territoire, hein, voyez-vous, hein. Je crois que les jeux sont jeux. Je peux me tromper, mais je crois, vraiment pour être franc, je crois que les jeux sont faits. À partir du moment où l'opposition n'a pas pu se réunir autour d'un nom, je crois que les jeux sont faits.
Alors, le président Biya revendique la force de l'expérience. Abdelaziz Moundé, que pensez-vous de cet argument? Et surtout, est-ce que les Camerounais en sont convaincus?
Si l'expérience de M. Biya servait effectivement à réduire le déficit énergétique de manière considérable pour qu'il y ait plus de 80% de Camerounais qui aient accès à l'électricité, j'achèterais ce slogan, mais j'applaudirais ce slogan, mais des quatre mains. Si la force de l'expérience de M. Biya servait à ce que plus de 40% ou au moins 60% des Camerounais aient accès à l'eau potable, je dis bien potable, eh bien j'accepterais volontiers cette force de l'expérience. Si cette force de l'expérience servait à ce que l'accès aux soins de santé primaire soit garanti par un système de couverture maladie universelle, comme c'est le cas au Rwanda, sorti de 10 années de guerre et de génocide, etc., etc., eh bien, cette force de l'expérience serait plus qu'un slogan. Je rappelle
que le président... Ce que vous dites, c'est que le bilan ne correspond pas au slogan?
Le président Biya avait un slogan « Santé pour tous » en l'an 2000. Il y a eu « L'eau, c'est la vie ». Il y a eu un certain nombre de slogans. Il a réchauffé un ouvrage pour le libéralisme communautaire de 87, il y a 30 ans, avec trois principes, la liberté d'entreprendre, le devoir de solidarité et la fonction régulatrice de l'État. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. L'économie camerounaise aujourd'hui, on est monté au niveau de pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. On était déjà à la tranche supérieure au milieu des années 80. Je me rappelle encore de cette une de Cameroun Tribune où le président disait « je ne faillirai point ». Les Camerounais peuvent juger aujourd'hui par la situation économique qui est préoccupante. Et je pense que le meilleur contempteur de son programme, c'est le président Biya. Il n'y a qu'à compulser ses discours pour voir comment la force de l'inertie il a décrit, comment les dérives de la gouvernance il a décrit. C'est quand même sous Paul Biya, c'est l'un des rares chefs d'État en Afrique où on a pu deux fois le Cameroun champion du monde.
On arrive à la fin de cette émission, je suis désolée Abdelaziz, ce seront les mots de la fin. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi et à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.